Les retraités syndiqués de Rio Tinto, Alcan et d'autres partenaires annoncent la tenue d'un colloque à l'hôtel Delta à Jonquière, secteur Arvida. C'est prévu pour demain mardi 22 octobre. Sous le thème 1926-2026, 100 ans d'occupation par Alcan et Rio Tinto, le bilan s'impose. Le colloque donnera aussi l'occasion de faire un bilan des impacts et des retombées de la présence d'Alcan Rio Tinto depuis près de 100 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle de plusieurs personnalités qui seront là. Marc Urbain Proulx, Denis Trottier, Alain Proulx au niveau régional et au niveau national, on parle de la chef du Parti politique Climat Québec, Martine Ouellette, et du sociologue Robert Laplante, qui viendront présenter un aspect du bilan des 100 ans d'occupation. Mentionnons que l'année 2026 marquera le 100e anniversaire de la fermeture des vannes du barrage d'Ilmaligne à Alma et aussi le début de l'aventure de l'aluminium dans la région. Les organisateurs comptent aussi analyser les retombées versus les privilèges qui ont été consentis à Alcan lors de la nationalisation de l'électricité, en plus de se questionner sur la concrétisation de la P60. Alors, ça fera partie de ce colloque qui aura lieu, je vous le rappelle, demain, 22 octobre. Ben voilà pour ces nouvelles et bien d'autres. Rendez-vous sur le ckaj.org, section Journal Radio 92.5. Bonne journée.
Vous voulez vous exprimer? Vous êtes témoin de quelque chose? Rejoignez l'équipe de Réveillez-vous par texto au 418 546 2525 ou par téléphone au 418 412 9250.
On vous a appris à marcher. On vous a appris à écrire et à compter. On vous a appris un métier. Mais on ne vous a jamais appris à perdre un être cher. Le complexe funéraire Carl Savard, c'est 02-49-49.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
Chaque mercredi et jeudi, ne manquez pas, dans les émissions Réveillez-vous et le retour du 92.5, le résumé de l'éditorial hebdomadaire de Richard Benford. Éditorial que vous pourrez ensuite lire dans sa version intégrale dès jeudi dans votre journal Le Réveil, mais aussi au ckaj.org dans la section Journal Radio 92.5. L'éditorial de Richard Benford, à découvrir et à lire chaque semaine. Et on en parle sur nos ondes au 92.5, ma radio d'ici.
92.5, ma radio d'ici.
Le 92.5 est équipé de la balado-diffusion pour vous permettre de réécouter quand vous le voulez des émissions ou bouts d'émissions. Rendez-vous sur le ckaj.org dans la section balado. Ne manquez plus les meilleurs moments de notre programmation. Tout y est. Rendez-vous sur le ckaj.org pour accéder à notre balado-diffusion. Bonne écoute à tous.
92.5, ma radio d'ici.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièce d'auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Voici votre émission matinale.
8h03, on termine déjà l'émission de dernière heure, donc jusqu'à 9h, avec quand même une émission assez remplie, une dernière heure assez remplie où on discutera entre autres de politique américaine. On est à l'approche des élections qui auront lieu dans moins de 3 semaines du côté des États-Unis. Et il y a des visites un peu partout. Là, on est en train de faire une dernière tournée pour essayer d'aller chercher et de faire monter le plus de votes possible. Messieurs,
ouais.
Vous avez... comme la majorité des gens, tous eu des jobs étudiants quand j'étais jeune.
Ouais, oui. Pas de temps, moi.
Non?
Sinon, je m'arrangeais pas mal pour me créer mes propres jobs.
OK. Ah, c'est bien ça.
Je suis sûr que le prof de rap...
Ouais. faisait bien plus d'argent comme
mais,
ça.
Mais toi, Eric?
À la fin de l'adolescence.
Ouais.
Effectivement, Casa Costa, restaurant grec,
okay.
À la baie.
Ah oui?
Oui, Tony Pizza. Pizza
Man. Pourquoi tu penses à fermer?
Ils ont tout fermé. Le restaurant Le Boc, le chef cuisinier, ça a fermé.
Ah oui?
Tout okay. A fermé.
Tout a fermé. Puis t'es là, toi? T'es ici, t'en sors? OK.
Ben moi...
ouais.
Quand, après le cégep, je travaillais dans plein d'endroits, en même temps que la radio, puis moi, il pognait en feu.
Ah oui?
Un coup, je partais, là.
Ouais.
Il pognait en feu.
Ben
Pas quand j'étais là, pas quand je travaillais là.
Quand tu décidais de partir.
Quand je décidais de démissionner, tout à coup.
Hein? Je te demanderais de rester ici.
Oui, c'est ça.
T'as jamais eu d'accusation. Hein?
Je ne sais pas si.
Juste avertir la station, vous venez d'acheter à Baptiste.
Ouais, ouais.
Mettez-moi pas les
heures. On est assuré.
Je ne sais pas si notre chroniqueur, il a sûrement dû avoir quelques emplois étudiants aussi. Guillaume Lavoie, comment ça va?
Bonjour.
De ton côté, emploi étudiant, ça ressemblait à quoi?
Ah, ben, beaucoup. Hein. Plongeur, j'ai commencé comme oui. ça, laver de la vaisselle. Et puis après ça, pendant quand même pas mal de temps, c'est avec ça que j'ai payé mes études au collège, j'étais emballeur chez Corneau-Quentin.
À Québec. Ah oui.
Ah ben.
Alors j'ai été là un bon bout de temps. Là.
Moi, si je te dis que c'est pas vrai que tu as travaillé chez Corneau-Quentin,
on te croit pas.
On te croit pas.
On va dire ça pendant une campagne.
Prouve-moi-le.
Ouais. Prouve-moi-le. C'est ce qui est là, arrivé un peu aux États-Unis en ce moment, là.
Ben c'est ça, vous appliquez la recette Trump.
Voilà.
Franchement efficace. Alors, en fin de semaine, et là, à moins que vous étiez en dessous d'une roche, là, vous avez vu sans doute ces images de Donald Trump en train de faire cuire des frites. Et je disais à la blague que c'est probablement le seul moment dans sa vie où il a touché des instruments de cuisine. Alors, il est allé dans un McDonald's en Pennsylvanie. Et là, c'est la mère de toutes les photo-op. Là.
Donc, il a dû sortir avec McDonald Trump, entre autres. Là.
Puis là, il donnait ça, enfin, tout ça était fastiche parce que le magasin, le restaurant était contrôlé par les services secrets. Tous les gens qui étaient au service à l'auto étaient inspectés avant. Vous approchez pas d'un candidat présidentiel comme ça. Là.
Uh-huh,
encore moins aujourd'hui. Mais bref, l'idée, c'était de prendre en photo puis de montrer Donald Trump en train de préparer, de travailler en arrière d'un McDo puis de travailler au service à l'auto. Parce que des millions d'Américains vont chez McDonald's tous les jours, puis c'est presque une manière d'essayer de s'inscrire dans un narratif que tout le monde a eu un emploi étudiant, qu'il est comme monsieur, madame, tout le monde. Évidemment, tout ça est de la construction pure.
Oui.
Mais
oui.
Une des raisons pourquoi il a fait ça, c'est une attaque codée à Kamala Harris. Parce que madame Harris, elle, depuis qu'elle est un peu à l'avant-scène, elle rappelle régulièrement qu'elle a travaillé chez McDo quand elle était étudiante. Bon, Mme Harris, elle joue un peu trop fort le personnage de « je viens d'une famille pauvre, là, comme Job, etc. » Ses deux parents étaient professeurs ou chercheurs à l'université. Ouais. Elle a vécu d'ailleurs à Montréal et à Westmount, peut-être le quartier le plus riche de Montréal pendant son adolescence, mm-hmm. parce que sa mère était à McGill. Alors, mais elle dit « j'ai travaillé chez McDo ». Puis là, ben, Trump dit « c'est pas vrai ». Et là, la campagne Trump a eu du génie parce que ce photo-op-là, c'est Mme Harris qui aurait dû le faire. C'est Mme Harris qui aurait dû se faire prendre en photo en train de travailler dans un McDo là, le temps d'une occasion comme ça. Puis finalement, Trump a saisi l'occasion et il dit à Mme Harris, c'est pas vrai. Et là, normalement, Mme Harris, sa campagne aurait pu répliquer, ben non, j'ai travaillé comme moi, je vous dirais, j'ai travaillé chez Corneau-Quentin de telle année à telle année, puis appeler les gens là-bas, puis vous allez voir. Mais ils ne sont pas capables ou ils n'ont pas décidé de répondre avec les dates puis quelle franchise, où est-elle le restaurant. Alors là, il en profite pour dire tout ça, c'est inventé, elle ment. Probablement que Mme Harris dit la vérité, mais ça vient toucher à cette idée d'un déficit d'authenticité chez Kamala Harris.
Oh.
Lorsqu'elle parle de l'avortement, elle a l'air profondément sincère, authentique, habitée de cet enjeu-là au plan politique.
Okay.
Quand elle parle des autres choses, des fois, ça a l'air d'être « j'ai bien appris mes lignes dans la réunion juste avant l'entrevue
ah. ».
Et c'est là que Trump va marquer des points. Là.
Okay.
C'est vrai, parce que Trump, lui, il parle avec son cœur, on peut dire. Il n'y a pas vraiment rien de trop préparé.
Le plus drôle, c'est qu'un mensonge comme ça d'Harris la détruit, puis Trump fait que ça mentir, puis lui, ça passe.
Mais ça, mais on n'est jamais jugé exactement sur le même standard, tout le monde. Trump a fait sa carrière sur le mensonge.
Oui, oui.
Et il ne joue que sur des sentiments. C'est-à-dire, lui, c'est la colère. Écoutez, que Trump, qui a fraudé l'impôt et qui a été condamné pour ça,
mais oui.
essaie de paraître pour honnête, essaie de paraître comme les gens ordinaires, lui. Il n'y a jamais eu chez Trump. Trump est né avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Oui, il n'a jamais rien eu.
Ah, il a essayé de faire à croire qu'il vendait de la limonade sur le bord de la rue quand il était jeune.
Oui, probablement que c'était l'activité de la journée puis que son père a acheté le trois quarts de la production de limonade.
C'est ça.
Mais à la fin, c'est fascinant comment Trump a réussi à créer un personnage et comme Vous savez, cette vieille expression, pour que le mal triomphe, suffit que les gens bien ne disent rien. Mm. Pour que les menteurs triomphent, suffit que les gens honnêtes disent rien. Et ceux qui ne disent rien, c'est tout l'écosystème des républicains honorables qui savent que Trump est amoral, qui savent que Trump ment, qui savent qu'il déploie une rhétorique dangereuse et haineuse, et qui disent rien parce que, quelque part, ça les arrange. C'est comme, moi, je prends pour telle équipe, il y a un joueur qui est un mauvais joueur, qui est un joueur, pensez par exemple à le football ou le hockey, là, il y a un joueur qui a fait un coup salaud, mais vu qu'il est dans mon équipe, j'en parle pas.
C'est ça.
En fait, le pouvoir est plus important que le pays.
Ben, c'est un peu ce que l'on voit présentement. Et les républicains qui ont voulu s'élever contre ça sont tellement peu nombreux qu'ils ont pu être écrasés. Alors, il y a une guerre civile, politiquement parlant, qui est en attente au Parti républicain. Si Trump perd, ça va aider ceux qui disent « ça fera ». Mais puisque, et c'est ça le vrai danger de Trump, pas seulement aux États-Unis, mais même au Canada, c'est qu'à force que ça marche, il y en a qui prennent des notes et qui se disent « pourquoi est-ce que je me donnerais le trouble de dire la vérité quand un mensonge, mais s'il est bien senti, c'est payant? Pourquoi est-ce que je me donnerais le trouble d'être respectueux envers les institutions quand de mépriser les institutions, ça fonctionne? »
Ben d'ailleurs, J.D. Vance l'a fait à la télé parce que quand on lui a dit « c'est pas vrai que les chats et les chiens sont mangés par les Haïtiens, vous avez inventé l'histoire », il dit « s'il le faut, je vais inventer des histoires pour que les gens en parlent. »
Et là-dessus, quand je regarde la couverture de l'enjeu de l'immigration, on peut pas dire que J.D. Vance a eu tort. Et c'est là où, quand le mensonge devient gratuit, parce qu'avant, c'est pas nouveau qu'il y a eu des mensonges en politique, mais avant, tu payais un prix élevé pour ça. Eh bien, pour reprendre une ligne dans une série télé que j'aime beaucoup, de Newsroom, si les politiciens payent un prix politique pour dire n'importe quoi, ils vont arrêter de dire n'importe quoi.
Ouais.
À partir du moment où le mensonge devient gratuit, ben là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
Et contrairement au Québec puis au Canada, ça se peut-tu qu'il n'y ait pas de moi je pourrais appeler ça d'association des journalistes, parce que les journalistes disent n'importe quoi, puis si tu dirais ça, tu te ferais mettre dehors, là.
Ben ça dépend. D'abord, il n'y a pas de... Ça n'existe pas le contrôle de la vérité, là. Au sens où, parce que j'entends souvent ça, là, des gens qui disent qu'il faudrait une loi pour interdire les fausses nouvelles. Ce serait bien gentil, là. Mais ce qui me fait bien plus peur avec ça, c'est qui,
le contrôle,
parmi nous, va décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Est-ce qu'on sait une seule personne qui va avoir le monopole de la vérité? Ça me fait encore bien plus peur. Et c'est là où, un peu comme, je vais faire un parallèle avec la COVID. Tu ne peux pas tuer la COVID. Pas possible de tuer un virus comme c'est pas possible de tuer le mensonge. Par contre, on peut vacciner les gens pour qu'ils se protègent. Et c'est là où il faut vérifier les informations que l'on consomme. Il faut vérifier sa source. Et si c'est Fox News, 100% de ce qui est à Fox News, ou peut-être j'exagère, ça devrait plutôt être 120%, c'est de la propagande.
Ah, littéralement.
Travaille pour Trump à fond. Mais reconnaissons-le, c'est absolument pas plus fréquentable à MSNBC, qui est de la propagande pro-démocrate.
Y a-tu quel média qui est, y a-tu un média neutre aux États-Unis? Parce que j'ai essayé d'en trouver, puis j'ai pas trouvé grand-chose.
La neutralité parfaite n'existe pas parce qu'on n'est jamais soi-même parfaitement neutre. On peut avoir des inclinaisons, on peut avoir une manière de voir les choses sans être habité d'une volonté de propagande qui nous fait oublier des choses évidentes. Mais de comparer diverses sources, ça, c'est toujours intéressant. Évidemment que, par exemple, CNN ou Politico, à tout le moins, vous allez avoir un substrat de faits intéressants. The Guardian, le journal anglais, ou moi, j'aime beaucoup le Wall Street Journal, qui est un peu plus à droite, qui a une pratique plutôt, ou plutôt une inclinaison économique, mais qui n'acceptera pas. On peut être partisan et être honnête. C'est pas mutuellement exclusif, ça. Je suis capable de reconnaître que l'autre camp a dit X. Si j'ouvre Fox News aujourd'hui, ce ne sont que les nouvelles qui disent à quel point Trump est génial et que les démocrates sont dangereux pour la nation. Ça, alors, je suis partisan, mais c'est pas honnête. Alors là-dessus, c'est difficile de dire « Ah, ça, c'est toujours parfait dans son traitement », parce que que même, puis là, on pourrait prendre l'exemple des stations de radio et des autres, une station de radio, ça ne parle pas. Ça ne parle qu'à travers divers animateurs, puis on est tous différents, divers chroniqueurs, et on est tous différents. Alors, de varier ces sources d'informations, c'est peut-être une des premières choses à faire dans l'analyse que l'on fait. Et à la fin, d'avoir une vue binaire des choses, c'est nuisible pour l'analyse politique. En regardant au Québec, on a l'impression que les bons, c'est les démocrates, les méchants, les républicains. Trump est un imbécile, mais si c'est vrai, ça, expliquez-moi comment il y a eu 75 millions de votes. Et oui. Pas tous des imbéciles. Ouais. Alors, quelqu'un pourrait être un méchant, quelqu'un pourrait être contraire à l'intérêt général et recevoir des votes de gens bien pour d'autres raisons.
Bien, la meilleure preuve, il y a des femmes et des Noirs qui votent pour Trump, alors tout ce qu'il dit contre eux autres, moi, j'arrive même pas à me concevoir comment ils peuvent faire ça. T'sais.
Oui, et ça, c'est. Et là, on le voit dans les derniers temps. C'est très particulier parce que d'habitude, il y a des ouvertures vers ce qu'on appelle le centre, où on essayait en politique, Robert Bourassa disait qu'en politique, on additionne. Donc, j'ai mes militants à moi, puis là, je veux ouvrir vers des gens qui sont des électeurs qui ne votent pas toujours démocrate, par exemple. Mm-hmm. Mais là, Trump, ce que l'on voit dans les dernières journées, il approfondit sa rhétorique. Elle est encore beaucoup plus dure sur l'immigration et il y a un substrat fasciste et raciste dans ses propos. Mais ça semble fonctionner, à tout le moins auprès d'un paquet de gens qui disent, à la fin, j'ai besoin de quelqu'un qui va donner un grand coup de pied dans la ruche. Oh. Et puis après ça, reconnaissons que la dérive woke est toujours une analyse dangereuse.
Aussi.
Je ne suis pas que le représentant de mon groupe. Je ne suis pas, moi, Guillaume Lavoie, que un représentant des hommes blancs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai le droit d'avoir une opinion qui est la mienne. Alors, à faire de dire les femmes pensent X, les hommes pensent Y, les Noirs votent pour les démocrates, ça peut être vrai dans l'aggloméré, mais il y a une raison pourquoi plusieurs personnes noires votent maintenant pour le Parti républicain, plusieurs de plus en plus possèdent des petites entreprises, et peut-être qu'on devrait célébrer cette chose-là, non pas que Trump fasse plus de votes, mais qu'il n'y ait plus cette division raciale. Dans un monde idéal, on voudrait pas dire voici ta couleur de peau, donc je sais comment tu votes.
Ah, effectivement. Ouais. Sauf que tu sais, quand tu vois tout ce qu'il peut dire sur eux, tu fais comme
spécial.
Spécial. c'est, nous, on. Ça passerait pas. Un politicien dirait une chose que Trump a dit sur les 50 000, il passerait même pas, puis ce serait tout de suite tassez-vous.
C'est pas juste chez nous. Joe Biden ou Kamala Harris pourraient pas dire le début du quart de ce que dit Trump.
Absolument.
Mais Trump a fini par développer un personnage où est-ce que, des fois, j'entends ça, c'est « Monsieur Lavoie, vous portez beaucoup trop d'attention à ce que dit Trump. »
Oh!
C'est comme « Jugez-moi pas sur mes propos. » C'est quand même spécial.
C'est quand même spécial.
Et là, on voit à quel point Trump parle pas en mots, il parle en sentiments. Et les gens disent, il fait écho à mon sentiment.
Et ça rejoint beaucoup de choses que je pense depuis un bout avec lui. Des fois, on a parlé souvent en studio.
Vraiment les
pourquoi
sentiments.
Pourquoi il est si populaire, ça explique.
Il est cherché par les sentiments. Hein, dernier petit point, Guillaume, avant de nous quitter. L'impôt sur le pourboire, tu parles de fausse bonne idée de Trump, mais reprise du côté d'Harris, c'est quoi cette histoire-là?
C'est très inquiétant, c'est très dangereux, et moi, ça me choque particulièrement. Alors, vous savez que, la règle générale de l'impôt, c'est tout revenu doit être déclaré. Votre revenu de salarié, votre revenu de travailleur autonome, votre revenu de pourboire, même votre deal de dope. Alors, vous vendez de la cocaïne, vous devez déclarer vos revenus. Et si vous pensez que je fais des blagues, sachez que c'est comme ça qu'on a attrapé Al Capone. Pas parce qu'il avait tué plein de gens, mais parce qu'il n'avait pas déclaré ses revenus à l'impôt. Et là, une des propositions de Trump, qui a été copiée par Harris, c'est, et ça se dit bien là, c'est une ligne facile, « no tax on tips », pas d'impôt sur les pourboires. Et ça peut avoir l'air séduisant, mais c'est vraiment une fausse bonne idée qui est très dangereuse. D'abord, c'est la mère des inégalités. Imaginez, vous vous faites livrer du poulet ou Uber Eats, vous laissez un pourboire, cette personne-là a un revenu non imposable. Vous faites livrer quelque chose par Amazon ou par la Poste, cette personne-là n'a pas accès au pourboire, donc elle n'a pas de revenu non imposable comme ça. Et en plus, c'est une subvention déguisée aux employeurs. Parce que les employeurs, si aux États-Unis, si vous gagnez, le salaire minimum quand vous avez accès au pourboire est un peu plus bas. mais si vous n'arrivez pas à un certain niveau, c'est l'employeur qui doit compenser.
Ah.
Ben là, l'employeur va pouvoir dire, ben, tu fais bien plus d'argent que tu en faisais avant, donc je vais baisser ton salaire ou je vais baisser ma masse, mon impôt sur la masse salariale. Ça va représenter un manque à gagner pour l'État américain d'à peu près 200 milliards par année. Alors, c'est énorme, là.
Oui, mais... Hein?
Puis là, si vous voulez en rajouter, c'est la porte de grange ouverte à l'abus. Pensez, par exemple, aux conseillers financiers, aux gestionnaires, dont des fois les bonus peuvent représenter 100 % du salaire. À partir du moment où mon bonus s'appelle un pourboire, est-ce que c'est pas merveilleux ça? Je viens de créer un énorme abri fiscal pour des possibles millionnaires. Vous voyez comment ça peut être tordu, là. Et à la fin, si on veut être une société qui a la préoccupation des égalités sociales, c'est pas en enlevant de l'impôt sur tel type de revenu puis tel autre, c'est en taxant tout et en redistribuant à ceux qui en ont moins ou à tout le moins en réduisant l'impôt, mais également pour tous. Alors là, ici, on a une raison. Puis pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bien, c'est parce qu'un des États-clés, c'est le Nevada.
Oh.
Et pensez, par exemple, à Las Vegas. Il y a beaucoup de gens au Nevada qui travaillent dans l'industrie des services, la restauration, les bars, etc. Alors, vous avez ici une politique générale qui ne vise exclusivement qu'à aller chercher le vote d'une petite partie de la population. C'est la mère de l'opportunisme. Je m'attendais à ça de Trump, mais c'est tellement efficace que ça a été malheureusement copié par Harris.
Oh.
Et déjà, là, vous voyez que ça se met en place.
Guillaume Lavoie, un gros merci de tes commentaires ce matin. On approche du vote qui arrive là, rapidement là, dans une quinzaine de jours. On se reparle la semaine prochaine.
Yep.
Au plaisir.
Merci.
Au revoir.
Guillaume Lavoie, donc, le sujet quand même assez intéressant. Donc, d'un côté, on parle avec des faits. De l'autre côté, on parle avec les sentiments. Mm. Et ça fait en sorte que ça vient chercher une certaine grappe de la population.
C'est parce qu'il y a trop de monde qui ont pris pour lui la dernière fois. Il y a des raisons qui sont autres que seulement que l'arnaque. Oui.
Ben parce que c'est justement l'émotion. Il y a pas, quand tu leur poses la question, pourquoi ils n'ont pas vraiment de raison plutôt que... est pourri.
Il y en a, il y en a que oui, ben. C'est comme il disait, il y en a, un entrepreneur noir.
Oui, il y en a, mais c'est pas celui que tu vois dans la rue. Là, assez,
non, c'est pas la majorité.
Assez, tout à fait. Assez rallye, là.
On s'en va au petit vite.
T'as peur?
Oui.
Quelqu'un qui a écrit.
Oui, par texto.
Bouchard.
Bouchard.
Crois-tu que les démocrates sont immaculés? Ça, c'est la personne qui nous écrit tous les matins sur tout ce qu'on dit,
oui.
Qui est tout le temps en train de chialer, qui a appelé d'ailleurs la Néron.
Oui, aussi. Ou
plutôt autre... dire Madame Néron.
Oui.
Soyez polis. Je m'appelle pas Bouchard. Je m'appelle Pat Bouchard. Ou Monsieur Bouchard, pour vous.
Oui.
Plus en particulier. De deux, j'ai jamais dit que les Républicains étaient croches. J'ai parlé de Donald Trump. J'ai pas parlé des républicains. J'ai dit qu'il y avait des républicains qui votaient pour Donald Trump et que c'était bizarre que Donald Trump soit populaire comme ça. J'ai jamais dit que les républicains étaient pas étaient croches et que les démocrates étaient immaculés.
Quand on
loin de là.
L'histoire du parti, là, il y a une grande histoire.
Là, ce que vous faites, là, ça, c'est ce que les républicains, non, pas les républicains, les MAGA, les amis de Trump font. Vous m'avez mis des mots dans la bouche que je n'ai jamais dit. En plus, vous êtes fâché parce que vous pensez que j'ai dit ça. Donc, vous allez m'appeler Monsieur Bouchard, sinon je ne répondrai plus à vos textos. Parce que Bouchard, ça marche pas.
Non.
L'Anéron, ça marche pas non plus.
Non plus.
Un peu de politesse. Si vous êtes capable de parler politique, faites-le comme il faut. Puis, si vous n'êtes pas content à chaque fois qu'on dit quelque chose, là, faites d'autres choses.
Oui.
Ah, mais il y a du monde qui aime ça.
Je pense qu'il
va écouter.
Pour... Ouais, ils nous écoutent pour nous détester.
Ouais, mais là, à un moment donné, là, vos textos, là, on en a plein le dos. Là. C'est à tous les jours. Là. Dès que tu dis quelque chose, c'est la même affaire. Là, vous êtes dans le champ, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes ci. Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, là, venez à la station, venez nous en parler d'en face.
Ouais.
Plutôt que d'essayer de nous écrire avec
vos
textos.
On est prêts à vous écouter.
Sans absolument, si vous êtes capable de le faire. Ouais. Centre d'autonomie, juste avant d'aller aux petites vitres rapidement, parce qu'on a un beau rabais sur les fat bikes. On les offre à 2000 $. C'est un beau 300 $ de rabais.
Encore, tu te sauves.
Et oui, et avec la neige qui s'en vient, ben ça, vous pourrez rouler partout, peu importe le terrain, peu importe la saison. Alors, 24 mois par année, ben oui. 12 mois par année.
24 mois par année.
Par contre, vous pourrez rouler 24 heures par jour, sans problème. Qu'il neige, qu'il pleut, qu'il fasse de la pluie, qu'il y a n'importe quoi.
Pas de trop.
Avec ça, vous ne serez pas pris. En plus, c'est des moteurs électriques. Donc, si vous êtes fatigué, ça va rouler électrique. Donc, 2000 $, c'est un beau rabais de 300 $ sur les fat bikes. En plus, on a les vélos Vélec, évidemment, les meilleurs rapports qualité-prix du côté des vélos électriques, qui vous offrent 3 ans d'assurance antivol, l'assistance routière illimitée, un 10% de rabais sur les vélos électriques et les quadriporteurs à venir voir au centre d'autonomie. Venez nous rencontrer. Même les sportifs, là, les saisons commencent. Là. On vient de gagner. Ben oui. Les saisons de quilles, ils ont commencé. Mal de bras, mal de ci, mal de ça. Venez voir les centres d'autonomie. Vous allez être surpris de tout ce qu'on peut faire, même pour les petites blessures. 690 rue des Actionnaires à Chicoutimi, 399 avenue de la Friche de Lebeau-Mistassini, centreautonomie.com pour voir tout ce qu'on a en magasin. 542-1255, 542-1255 avec les centres d'autonomie. La vie continue.
Vous êtes nombreux à adorer l'ambiance familiale du restaurant 4 Chemins.
Ouais, mais Dom, il y a les travaux de réfection sur le pont sur la rue du Vieux-Pont.
C'est pas grave, on fait le détour, car au restaurant 4 Chemins, ça vaut le détour.
Et en voici les raisons.
L'excellente pizza déjeuner, le club déjeuner.
Wow!
Les assiettes garnies et avec du goût.
Le menu du jour avec une soupe, plat principal et dessert avec un choix des plus variés et c'est savoureux.
Et que dire des prix qui sont abordables?
Le restaurant 4 Chemins, 2234 rue Saint-Jean-Baptiste. Baptiste Jonquière, ouvert de 5h le matin à 14h, et ce, 6 jours sur 7.
Ça vaut le détour!
Les membres en règle de la radio communautaire du Saguenay Inc. 92.5 CKJ sont cordialement invités à son Assemblée générale annuelle le lundi 28 octobre 2024 dès 19h au sous-sol du restaurant La Vilaine, au 2166 rue des étudiants Jonquière. Les membres du conseil d'administration présenteront les états financiers pour la dernière année. Tous les détenteurs de la carte privilège 2023-2024 de couleur jaune sont les bienvenus.
Puisque la mort fait partie de la vie, pourquoi ne pas en parler?
Pour des funérailles riches de sens.
Jocelyne Vachon, célébrante.
Quand vient l'heure du dernier départ, il est parfois difficile de trouver la place à accorder aux adieux nécessaires pour la personne tant aimée. Les funérailles aident à faire un temps d'arrêt afin de prendre conscience qu'une vie vient de se terminer. Notre mission, vous accompagner dans le choix de rituels riches de sens.
L'Alliance funéraire du Royaume, présent à chaque instant.
Je suis tellement tanné, là, tout augmente. L'épicerie, l'essence, les loyers. Y a-tu quelque chose qui a pas augmenté?
Le prix des cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Mais je te dis.
Te crée pas.
Les cartes de bingo du 92.5, toujours à 5 $. Pour trouver un point de vente près de chez vous, visitez le ckaj.org.
Te dis. Les cartes de bingo à 5 $, te crée pas.
Mais je te jure.
Ben je te crée. M'en acheter.
Pour vous aider à mieux consommer et à connaître vos droits de consommateur, voici la chronique de Charles Tanguay de l'Office de la protection du consommateur.
On parle de petits chiens.
Ben oui, on parle, on parle d'animal de compagnie. J'en ai un.
Petit pitou, des minous.
Un et demi. J'ai remboursé un petit minou hier.
Moi, dire une affaire, là, ça peut coûter cher la livre. Alors, regarde le petit chien de ma soeur qui pèse même pas une livre, là, à 3 000 $, là. Ça fait cher la livre. Fait que si t'as des problèmes avec un chien que t'as payé 3 000 $-4 000 $.
Toi, t'en as pas, mais t'en gardes un à l'occasion.
Ouais, souvent celui de ma soeur.
J'ai Eric, t'as un chien.
Je fais partie de ces montants-là.
Toi, t'as ta blonde aussi. Là, tu...
Oui.
Fais deux. T'as de blague. Je sais qu'elle nous écoute.
Ah oui, elle nous écoute.
Parce qu'elle va probablement me répondre, c'est lui l'animal dans la maison.
Ouais, c'est ça.
C'est son poil que je ramasse.
C'est lui qui perd du poil.
Donc, vous êtes sûrement plusieurs qui nous écoutent qui a un animal de compagnie à la maison. Donc, si vous avez répondu oui,
Charles,
vous savez. Monsieur, je sais pas. Écoute, on pourrait lui demander. Charles Tanguay, bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que tu as un animal de compagnie chez toi?
J'ai deux chats, puis il est arrivé une mésaventure avec un des deux chats. Là. Il est resté une semaine à 40 km de chez nous.
Et
on a fini par le retrouver.
Ben voyons.
Hey, c'est loin, 40 km.
40 km. Il est parti à pied, puis il s'est rendu là?
Une longue histoire. On a été nounou, on l'a amené au vétérinaire, puis il a réussi à s'échapper dans le stationnement du vétérinaire. On s'en allait le faire micro-pucer, justement.
Ça
a été un peu dramatique, mais ça s'est bien fini. On l'a poigné dans une cage trappe.
OK. Donc, pour ceux qui ont des chats et des chiens, on le sait, quand il y a des problèmes de santé, on est prêt à dépenser une fortune.
Oui.
Il y en a, là, écoute, ça va dans les milliers de dollars. Mais dans le cas où c'est un animal que vous venez d'acheter qui tombe malade, donc vous venez de l'avoir, est-ce que c'est garanti? Ben, c'est ce qu'on parle ce matin. Quand un consommateur s'achète un chat, un chien, un oiseau, Charles, au départ, est-ce qu'il y a une garantie?
Oui, monsieur.
OK.
Et bon, on va faire une petite parenthèse. On se souvient peut-être qu'en 2015, le gouvernement du Québec a adopté une loi pour qu'on traite mieux les animaux, qu'on les respecte comme des êtres vivants. Donc, le Code civil a été modifié. On reconnaît désormais que l'animal est un être doué de sensibilité et ayant des impératifs biologiques. On va y revenir tantôt là-dessus. Okay. Alors, malgré ça, ça peut paraître drôle, mais l'animal est considéré comme un bien, tout simplement, aux yeux de la loi sur la protection du consommateur. Donc, tout ce qu'on a dit ces dernières semaines au sujet des garanties, ça vaut aussi pour un animal. L'animal qui doit, s'il a été acheté d'un commerçant, bien sûr. Alors là, on parle vraiment d'animalerie, de chenil, de refuge, d'un éleveur d'animal. Ça ne s'applique pas si vous avez acheté, par exemple, d'un particulier sur des petites annonces.
La disposition de la loi, ça consiste en quoi, au juste?
Ben alors, essentiellement, ça peut paraître bizarre à entendre lorsqu'on parle d'un animal, mais il doit avoir une durée raisonnable et être exempt de vices cachés. Alors, exactement comme n'importe quel autre bien de consommation qu'on achète d'un commerçant.
Donc, ça veut dire que l'animal ne doit pas être malade, puis encore moins mourir, ça aide pas, ça.
Exactement. Il doit normalement être en bonne santé pendant un certain temps. Combien de temps? Ben, c'est difficile à dire. C'est les tribunaux qui vont utilement le déterminer selon les circonstances. Mais c'est bien sûr que si votre animal est malade seulement quelques jours ou quelques semaines après l'achat, vous pouvez envisager un recours. C'est souvent le diagnostic du vétérinaire qui va être déterminant. S'il peut identifier une maladie, ben, il pourra aussi probablement dire si cette maladie, à son avis, était présente lorsque le consommateur a acheté l'animal. Donc, c'est un facteur qui risque d'être déterminant pour établir la responsabilité du commerçant.
Donc, si je te suis, Charles, dans le cas où, par exemple, mon chat semble malade, une semaine après que je l'ai acheté, je vais chez le vétérinaire, c'est la première chose à faire.
Pas tout à fait, parce qu'on a toujours l'obligation légale d'aviser le commerçant du problème avant d'entreprendre des démarches. Si vous voulez préserver vos chances de succès dans un recours, vous devez lui donner une chance de corriger le problème par lui-même. Un vendeur d'animaux pourrait, par exemple, avoir une entente chez un vétérinaire spécifique. Donc, il va vous demander d'amener l'animal chez son vétérinaire. Il pourrait aussi vous proposer autre chose. Reprends ton chaton, je vais t'en donner un autre. Où il pourrait y avoir toutes sortes d'autres situations. Donc, en supposant qu'un chaton ou un chiot tombe malade quelques jours ou quelques semaines après avoir été acheté d'un commerçant, le consommateur doit d'abord mettre en demeure le commerçant de lui donner un délai raisonnable pour réagir. Comme c'est une maladie, bien, le délai peut être très court, ça peut être 24 heures ou même moins. Et puis même en cas d'urgence ou de refus catégorique du commerçant, l'étape de la mise en demeure pourrait être sautée, mais il faudra alors faire la preuve qu'il y avait une urgence ou que le commerçant voulait rien savoir, et c'est pour ça qu'on a sauté la mise en demeure. Si le commerçant ignore la mise en demeure, vous pourriez le tenir responsable de tous les dommages subis. Ça pourrait être, par exemple, de lui réclamer les frais de vétérinaire pour autant qu'il soit raisonnable compte tenu du prix d'achat de l'animal. Bon, par exemple, un tribunal pourrait trouver ça un peu trop exagéré que les frais de vétérinaire de 1 000 $ soient payés pour un chiot qui en valait 200 au départ. Et à l'inverse, j'ai vu dans un jugement où il était question dans le contrat de vente de l'animal que l'animalerie limitait sa responsabilité au prix payé pour le chat, c'est-à-dire 34,50 $. On s'entend qu'en général, une facture de vétérinaire, ça dépasse facilement la trentaine de dollars.
Oui.
Donc, le juge a balayé cette clause-là du revers de la main en disant qu'elle était abusive et sans effet. Donc, si on ne parvient pas à s'entendre avec le commerçant, l'étape suivante, ce serait d'aller devant la division des petites créances de la Cour du Québec. Chaque cas est évalué par le tribunal en fonction des circonstances, de la preuve qui est présentée. Et c'est vous, le consommateur, qui aurez à faire la preuve. L'opinion du vétérinaire, notamment, est importante. Est-ce que la condition qui explique la maladie était existante au moment de l'achat? Quelle est la durée raisonnable d'un type de chien de cette race-là ou d'un type d'animal à ce prix-là? Le prix aussi, évidemment, quand on parle d'animaux, 3, 4, 5 000 piastres, on espère que ça dure plus que 2 jours. Ouais. Est-ce que le consommateur a commis des fautes ou des négligences? Il l'a peut-être mal nourri ou des choses comme ça?
J'aurais une sous-question, Charles. Moi, j'ai eu une petite chienne, une shih tzu comme ça. Ils ont mélangé les papiers au chenil et il y avait une madame qui est partie, elle, qui n'était pas contente, je ne comprenais pas pourquoi, mais on s'est rendu compte, 2 mois après, qui nous dit « Oh, on a eu le mauvais chien. Le chien qu'on a, c'est lui qui a une maladie de cœur et que l'autre madame n'était pas contente. Il est correct, son chien. Hein? » Fait que, puis là, les frais, qu'est-ce que ça en courait? C'est que moi, ça tombe comme un chien cardiaque, il prenait des pelules à 3 mois. Les pelules, quand même, ils coûtent 20-30 $ par mois. Si je voulais opérer, c'était en 3-5 000 au départ. Puis personne n'était responsable. Ils m'ont remboursé le chien. Ils m'ont remboursé un montant du chien, la moitié du prix. Je pense, c'était un shih tzu mélangé avec caniche. C'était pas pur pur. On l'avait payé peut-être 600, le fait dans ce genre-là, on avait eu 300, qu'on s'est fait créditer. Mais c'était rien comparativement aux dépenses des années, parce que la chienne a quand même vécu 14 ans. Est-ce que tu veux ce type de problème-là, même toi, l'argent que j'ai mis là-dedans, c'était un terme. C'était un terme de char, là.
Bien, effectivement, puis certaines maladies, ben, c'est des conditions préexistantes, des malformations. Ou des maladies
ben, comme les gros Bouvier-Bernois qui ont des problèmes de hanche souvent, ma soeur en a eu un comme ça, puis... Un des problèmes aussi, c'est que ça arrive 3-4 mois après que tu l'aies eu. Fait que là, ben là tu l'aimes. Tu fais comme, ben là, je peux pas le changer. C'est comme si on avait un bébé et tu vis avec ces problèmes. Tu sais. Mais en supposant que l'animal qu'on vient d'acheter avait une maladie grave puis qu'on est obligé de le faire euthanasier, est-ce qu'il y a une compensation qu'on peut espérer?
Bien, j'ai fait une revue des jugements sur le site jugement.qc.ca, jugement au pluriel, avec des mots-clés comme animalerie, chien ou chat. Il y a beaucoup d'affaires de chiens qui mordent les voisins, mais il y a aussi pas mal d'histoires sur les animaleries, par exemple. Mm-hmm. Et donc, la lecture des jugements, c'est très instructif. Par exemple, lorsque la responsabilité de l'animalerie est prouvée, le consommateur peut s'attendre à se faire rembourser le prix payé pour l'animal, les accessoires qu'il a achetés s'il y a lieu, les frais raisonnables de vétérinaire s'il a dû en consulter un, et même les frais d'euthanasie. Il pourrait aussi demander des dommages. Par exemple, si la personne avait déjà un chat et que le nouveau chat malade était contagieux et a rendu l'autre chat malade, ben, il pourrait être dédommagé pour ça. Et puis, on voit parfois des demandes pour dommages moraux. Donc, c'est là où les changements dont on parlait tantôt au Code civil entrent en ligne de compte. C'est les troubles, la perte qu'on a, la peine qu'on a de perdre un animal. Là. On perd pas un appareil électroménager.
Mais non, c'est ça. C'est un membre de la famille, souvent pour plusieurs.
Vivant, puis c'est souvent un membre de la famille. Puis ça. Alors ça peut jouer aussi dans l'appréciation du juge des dommages qui découlent de la peine qu'on peut avoir eue pour avoir perdu un être vivant. On voit dans des jugements beaucoup de détails autour de ça qui vont compter dans l'appréciation du tribunal et c'est très instructif. Si on vit le problème, bien, ça peut nous aider à savoir un peu quoi demander et comment bien préparer éventuellement sa cause.
Pendant la pandémie, il y avait beaucoup de gens qui voulaient briser leur isolement en se procurant un animal de compagnie. Est-ce qu'il y a des mises en garde particulières à faire pour ce type de cas-là?
Bien, effectivement, il y a des périodes où la demande explose et là, bien, les profiteurs en profitent. Il y a eu beaucoup d'arnaques sur les petites annonces Facebook ou ailleurs. On voyait des éleveurs d'animaux ou simplement des particuliers qui vendaient des animaux avec des belles photos puis tout ça. Le prix est attrayant. On veut l'animal. Et là, on se fait demander un dépôt pour le réserver. Dépôt par virement Interact, mais finalement, il n'y a jamais eu d'animal. Tout est faux. La personne encaisse l'argent, disparaît dans la nature. Et donc, c'est des escroqueries. Il faut faire attention de ne jamais envoyer d'argent avant d'avoir la vue de ses yeux vus l'animal en chair et en os. Et puis, si on est victime de ça, ben, on fait une plainte à la police.
C'est pas mal. Et ben, en terminant, Charles, si jamais on a un recours en garantie à exercer au sujet d'un animal vendu par un commerçant, on peut communiquer évidemment avec un agent de l'OPC qui va savoir nous orienter sur les actions à entreprendre, j'imagine. Même chose pour tout autre problème de protection du consommateur?
Tout à fait. Alors, à Saguenay, le numéro c'est 418-695-8427. Notre site web également, opc.gouv.qc.ca.
En t'en allant, Charles, tu as compté le pire, c'est que moi, j'ai une nouvelle chienne qui m'a été donnée, qui vaut quand même cher, une caniche, mini-caniche. Et fait 2 ans, un peu plus qu'on l'a, elle commence à avoir je sens qu'elle a les mêmes troubles que ma petite chienne qui sont trompées, cardiaques.
Ah ouais?
Je m'amuse avec elle. Elle est plus capable, elle ne peut plus s'énerver à cette heure. Elle commence à te choquer, non?
Ah ouais?
Ah oui, la mienne tombait sur le côté en faisant c'est de l'épilepsie. Là, tout fait qu'elle m'a pogné à l'avoir, tu sais ça, puis c'est arrivé par après.
Oui, les frais de vétérinaire, c'est pas mal cher aussi.
Hey, ma mère, sa petite chienne, des antibiotiques, combien? Juste pour les antibiotiques?
Je sais pas.
400$.
Oh, ça n'a pas de bon sens.
Combien de temps, ça, qu'antibiotiques?
Ben, une semaine.
Mais on les aime tellement,
c'est elle va bien, là, elle est correcte, mais tu sais, vieille. Des fois, tu te dis, ben, on va laisser faire, finalement, on va laisser partir.
Fait que d'avoir une assurance pour des chiens, c'est pas si mauvais que ça, des fois, sur des races, peut-être.
Oui, il y a ça, ça existe. Là-dessus, on n'a pas beaucoup de données. Ça vaut-tu la peine, ça vaut pas la peine. Ouais. Ça dépend des contrats, j'imagine, puis notre niveau de tolérance au stress. Mais bon, on les aime, effectivement,
mais
ça joue. Là, dans
la plupart du temps aussi, les éleveurs de chiens de race qui valent T'sais, on parle de 3 000 à 4 000 ils connaissent le marché, ils savent comment sont leurs chiens aussi. Comme ceux qui élèvent des bouviers bernois, ils savent que un sur trois va avoir un problème de hanche et va être à changer. Là, ouais.
C'est sûr.
Charles Tanguay, merci beaucoup.
Oui.
Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine.
Ça va intéresser beaucoup de gens matin. Oui.
Absolument, absolument. Donc,
les seuls chiens que j'ai jamais vu avoir de problèmes réels, là, tu sais,
des bâtards.
Des bâtards.
Oui,
un bâtard, oui. Là, ça va un toujours mixé, bien. Là, ouais. Mais tu sais, dès que tu arrives avec un chien de race, là, parce que veux pas pour faire des chiens de race, ben là, c'est toujours les mêmes enfants.
C'est la consanguinité. Plus délicat. Ben oui, c'est
amène
ça.
Des troubles.
C'est ça. La consanguinité, ça joue le gros là-dessus. Donc, on rappelle le numéro 695-84-27 si vous voulez discuter avec un agent de l'OPC. Pour tout autre sujet également aussi, là, si vous avez des questions.
Ils sont là pour vous autres.
Ils sont là pour vous. Donc, chronique de l'Office de la protection du consommateur, on pourra la réentendre cet
après-midi.
C'est
peut-être même un des organismes que je trouve un des plus importants au Québec.
Ben, certain.
Qui va vraiment changer des fois des choses pour des gens mal pris.
Combien qu'on laisserait tomber parce que la chenoute va me faire avoir. Puis avec eux autres, et souvent, on peut...
Puis les gouvernements renforcent les lois pour les aider en plus.
Oui, tout à fait. Nous donc, aider. Ça s'améliore et tout ça. Donc, là, pour vous aider tout simplement. Dans quelques instants, bien, c'est au tour de Max Bradette qui s'en vient. On aura également les détails météo. On est déjà rendu en fin d'émission.
Et le mot de Max Bradette?
Il est pourri!
Bonjour, ici Alexandra Desbiens de l'équipe Everest. Ne ratez pas ma chronique immobilière tous les mercredis aux deux semaines dans l'émission Réveillez-vous. N'hésitez pas à me poser des questions au 581-234-2355 et il me fera plaisir d'y répondre lors de ma chronique les mercredis aux deux semaines à 8h20 dans l'émission Réveillez-vous au 92.5, ma radio d'ici. Et pour rejoindre l'équipe Everest, 581-234-2355.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
C'est maintenant reconnu au garage Godin-Lapointe. On répare, on graisse, on roule. Prenez rendez-vous pour vos changements de pneus et profitez-en pour faire l'inspection de votre véhicule pour l'hiver. Parce qu'un véhicule en ordre est un véhicule sécuritaire. Le garage Godin-Lapointe. On répare, on graisse, on roule. 2262 rue Saint-Dominique-Jonquière. 547-4143. 547-4143. La météo. Une présentation de Kia Harold Auto. 693-8050.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
92.5.
Ben aujourd'hui, on aura une belle journée avec un 40% de probabilité d'averse ce matin. Donc, à certains endroits, il y aura un peu de pluie, mais à partir de cet après-midi, ben, ce sera du beau temps avec un maximum de 17. Demain, du soleil avec un maximum de 13. Alternance soleil et nuages pour mercredi, 30% de probabilité d'averse, un maximum de 22. Et cassure jeudi avec du soleil, maximum de 8. Vendredi, soleil, maximum de 7. On a 9 au Saguenay, 11 au lac.
Radio d'ici. Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Max Bradette. Max Bradette. Max
Bradette. La finale tant rêvée par plusieurs se réalise dès vendredi. La série mondiale entre les Dodgers de Los Angeles, l'équipe de la West Coast et les Yankees de New York, l'équipe de la côte Est, vont s'affronter. Max, normalement, on a toujours des surprises en série. Cette année, c'est une belle surprise de voir les deux plus gros marchés du baseball s'affronter.
Ben, c'est surtout une des plus grandes pages de l'histoire du baseball.
Oui.
Un œil au bernois. Oublie pas une chose, ça fait 68 ans que les Dodgers ont déménagé de Brooklyn à Los Angeles et les gens ne l'ont pas oublié encore. Je te dirais qu'on disait une série du métro entre les Mets et les Yankees, mais c'est un petit peu la même chose. Il y a encore des gens... Ben, on se demande si la rivalité canadien-nordique va disparaître. je peux te dire que là, après 70 ans, presque 70 ans, elle est encore présente. Les gens n'ont pas encore digéré le transfert des Dodgers de Brooklyn, parce que de la manière que ça s'est fait un peu comme Québec, mais ça s'est fait pendant la nuit. Les Dodgers de Brooklyn ont joué leur dernier match le 30 septembre 1956. Ça a également été le dernier match de Jackie Robinson. Jackie Robinson, qui avait été qu'on avait cédé son contrat aux Giants de New York, eux aussi qui ont déménagé, qui sont devenus les Giants de San Francisco, aux Giants de New York. Mais Jackie Robinson avait, écoute, ça avait fait une commotion dans le monde du sport parce que lui, il avait décidé qu'il ne porterait qu'un chandail des majeurs, et c'était celui-là, des Dodgers de Brooklyn. Et il avait pris sa retraite, il avait terminé. Autrement dit, Robinson n'a joué que pour, en vérité, pour les Royaux de Montréal, qui était la filiale, et pour les Dodgers de Brooklyn. Ça fait que c'est un petit peu toute cette histoire-là qui va revenir. Et le baseball, qu'on le veuille ou non, qu'on nous parle du hockey, qu'on nous parle d'autres sports, mais le baseball a une histoire tellement riche avec la conquête et tout le développement des États-Unis que tu ne peux pas, justement, ne pas t'intéresser à une telle finale. Avec, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Quand tu regardes Los Angeles, c'est grandiose. Je pense qu'ils dépassent même les Yankees. Je ne sais pas si tu as vu, mais le stade, c'est de toute beauté. Écoute, quand tu vois un match des Dodgers, ça prend 2h30 à sortir du stationnement tellement qu'il y a de monde.
Ça n'a pas d'allure.
2h30 à sortir du stationnement. Il y a également, tu sais, c'est une équipe avec son histoire. On a qu'à penser à Éric Gagné qui était avec les Dodgers. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'affinités, les gens, parce que même si on dit, tu sais, quand l'Avalanche du Colorado est allé gagner la Coupe Stanley l'année d'après avoir déménagé, c'était un pincement au cœur pour tous les partisans des Nordiques qui ne l'ont jamais oublié. Fait qu'imagine-toi en, je te dirais, en 100 fois plus gros. Parce que quand tu parles de New York, c'est bien beau Montréal, là, puis c'est bien beau Québec. Mais New York, là, c'est démesuré, là. C'est la place où ce que tout, que ce soit les vedettes sportives, que ce soit les vedettes au niveau des arts et du spectacle, c'est là que tu veux évoluer. New York et Los Angeles.
Ouais, c'est ça.
C'est New York et Los Angeles. T'sais, en fin de compte, lorsqu'on a décidé de déménager Brooklyn, puis soit dit en passant, je ne sais pas si tu as déjà vu des images, l'Ebbets Field, où ce que jouaient les Dodgers de Brooklyn, c'était de toute beauté, Dominique. Là. Un beau petit stade, un beau stade, c'était de toute beauté. Et quand j'ai été à New York, dans ce coin-là, on nous parle encore des Dodgers de Brooklyn. On nous en parle encore. Ça a vraiment marqué l'imaginaire. Puis, il ne faut pas oublier que quand ils ont aligné Jackie Robinson également, c'était une page de l'histoire américaine. Là. Fait que tu ne peux pas oublier des choses, genre, un peu comme les Nordiques quand ils ont fait traverser Stachny.
Oui.
C'est un petit peu la même chose. Là. C'est ce qui a marqué, tu peux dire, bon, l'avalanche du Colorado, mais ce premier pas-là qui fait qu'aujourd'hui, tu regardes, c'est bourré de Russes, de tout ce que tu voudras dans la Ligue nationale. Et même, ils envahissent les équipes de la Ligue junior canadienne. Mais tout ça, on le doit à une page qui s'appelle les Stachny, comme tu dois une page avec l'arrivée de Jackie Robinson avec les Dodgers de Brooklyn. Là. C'est la même chose. Fait que c'est sûr que cette histoire-là, on va nous en parler abondamment lors de la Série mondiale. Puis même si on va tenter de ne pas y revenir, on va y revenir quand même. Et ça ne me surprendrait pas qu'on... Parce qu'ils ont joué... Les Dodgers de Brooklyn n'ont gagné qu'une série mondiale, si je ne m'abuse. Oui, ils n'ont gagné seulement qu'une. C'est en 52-53, là, je ne pourrais pas te donner la date exactement. Mais ils en ont gagné rien qu'une. Mais avec l'histoire, tu jurerais qu'ils en ont gagné 50.
Bien, c'est ça. On parle tellement de cette équipe-là, de... comme une dynastie, mais quand tu dis une série mondiale.
Puis quand tu regardes, quand on dit qu'un nom, le nom d'une équipe transcende le sport, tu regardes les deux équipes, écoute, la masse salariale, Otani, Mais on ne nous parle pas de ces joueurs Otto de l'autre côté. C'était toutes ces deux grosses formations. C'est quoi, écoute, la masse salariale des deux équipes additionnées ensemble, c'est quasiment le PIB d'un pays. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas ça qu'on nous parle. On nous parle de New York et de Los Angeles. Pour un président de ligue, pour une ligue, tu peux pas avoir demandé meilleur scénario. Tu sais, on va nous parler, bien sûr, des joueurs, des exploits des joueurs, mais les joueurs, maintenant, sont interchangeables. Fait que, tu sais, t'as plus de fidélité, t'en as quelques-uns. Là, t'as sans doute Sidney Crosby qui va avoir le mérite de tout faire sa carrière à Pittsburgh. Et ça, je trouve que Pittsburgh, on ne peut que féliciter les Pingouins parce que je trouve que ça aurait été un œil au beurre noir si Sidney Crosby arrêtait de terminer sa carrière ailleurs. Là. Ça aurait été un œil au beurre noir. Mais tu regardes la même histoire maintenant, il n'y a plus de fidélité. Tu vas voir la série mondiale, que ce soit une ou l'autre des équipes qui gagnent, il y a sans doute des joueurs qui vont changer d'endroit. Mais la chose qui ne change pas, c'est l'histoire. C'est les Yankees. De quoi qu'on parle ce matin? On parle pas des joueurs puis de la masse salariale. On nous parle des Yankees et des Dodgers. Puis ça, pour un sport, Dominique, il peut pas avoir mieux que ça. Pour un réseau de télévision, on va s'en raffoler.
C'est comme si tu avais une finale, par exemple, Canadiens Rangers ou Maple Leafs Rangers ou Red Wings et tout ça. L'Original Six en grande finale, c'est ce que le monde veut.
Non, moi, je pense, tu dis ça, t'es poli. C'est s'il y aurait finalement il y aurait eu une série finale entre les Canadiens et les Nordiques. C'est à peu près la même chose pour les autres. Puis pour le sport en tant que tel, tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Pour le sport, un peu comme Vancouver, terrain de finale, Vancouver-Edmonton, mais ça n'a pas encore le même impact.
C'est pas pareil.
Ici, les Québécois, c'est des gens qui sont émotionnel. C'est l'émotion qui les dirige. Ben, à New York, là, c'est un petit peu la même chose. À Brooklyn, tu sais, Brooklyn nous ressemblait beaucoup. À Brooklyn, ça ressemblait beaucoup aux Québécois. Cette émotion-là qui caractérisait, tu sais, les déchus, les laissés pour compte qui avaient leur équipe de baseball, qui rivalisaient avec, écoute, ça le dit, les Yankees. Quand tu parles d'un nom grandiose, ben tu peux pas avoir plus grand que les Yankees pour les Américains. Mais là, tu avais une gang, un petit peu comme les Gaulois du village d'Astérix, qui réussissaient à faire trembler les Yankees. On les a déménagés. Là, ils sont rendus d'une autre place à Los Angeles, avec une ville qui peut rivaliser avec New York. Mais quand tu regardes l'histoire, il y a des choses qui se remplacent. On aura beau nommer n'importe quel événement sportif. Mais je te dirais que pour le baseball et pour le sport en général, tu ne pouvais pas rêver un meilleur scénario. Surtout quoi, ça fait depuis 1981 qu'ils ne se sont pas rencontrés. Tu me disais ça l'autre jour. Ben, l'année de Rick Monday, le fameux circuit.
1981. C'est eux qui ont été
à place des expos. Encore là, on rentre d'une page d'histoire. Autrement dit, ils ont coupé l'histoire des expos qui aurait pu être une histoire de rêve, une participation à la série mondiale. Ça s'est viré en cauchemar pour les expos, mais pour dénommer Steve Rogers, ne l'a jamais oublié. Jamais oublié.
Max, là-dessus, on va te souhaiter une bonne journée et on se reparle demain matin.
À demain.
Un gros merci. 8h55, on est déjà rendu à la conclusion de l'émission. André qui est en studio avec nous, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui?
Rien de particulier. Par contre, accident ce matin plus tôt du côté de la baie, boulevard Grande Baie, Monseigneur Dufour, une voiture, une camionnette et un camion cube d'impliqués. Rien de trop grave, heureusement. Blessure mineure dans ce cas-là. Voilà.
OK, excellent.
Mais aujourd'hui, rien de surveiller.
Bon, ben voilà. Alors, peut-être une chose, c'est le développement peut-être de l'enquête sur les incendies.
En fait,
deux incendies qui se sont déclarés en fin de semaine à l'église Notre-Dame-de-la-Paix.
Deux?
Oui, parce que les pompiers sont retournés hier.
Ah! Ouais.
Deux
fois?
Ouais, deux fois.
Ah, Hervé ne m'avait pas dit ça. OK. Ben écoute, ce qu'il y a de particulier, c'est que il y a une présence policière qui a été effectuée toute la fin de semaine. puis, OK. Ah, peut-être pour ça qu'ils ont mis un char de police dans le cour à partir d'hier, ouais.
Exactement.
Ah, deux incendies. Mais je suis en train de me demander si les lieux comme ça, d'une ancienne église, ça aurait pu être squatté. Je soupçonne.
Arrivé, il faisait froid la nuit, peut-être quelqu'un fait un feu pour se réchauffer.
Je soupçonne une présence d'itinérants peut-être à l'intérieur. Peut-être, hypothèse. Voilà.
Annick Bilodeau s'en vient dans quelques instants. Le soleil fait partie donc de cette belle journée. Il est là, il sera là pour le reste de la journée. Éric et moi sont dans le retour à compter de 16h30. Bon lundi, on se quitte avec la pensée du jour.
Chaque religion enseigne que toutes les autres religions sont fausses et elles ont toutes raison. Logique, hein?
Pensez-y.
Pour un véhicule d'occasion, pensez Perron Ford et Galerie Ford. Vaste choix de VUS, camions ou voitures inspectées et offertes au juste prix. De plus, à l'achat de l'un de nos véhicules, obtenez jusqu'à 30 % de rabais sur vos pneus d'hiver. Seulement chez PerronAutoFord.com et GalerieFord.com.
Les nouvelles au 92.5.
Eh bien, pendant qu'on attend que le CIUS daigne faire quelque chose sur le terrain de l'ancienne église Sainte-Marie, devenue l'ancienne église Notre-Dame-de-la-Paix, toujours est-il qu'un incendie s'est déclaré samedi soir autour de 18 heures. C'est bien sûr dans l'ancienne église qui est située sur la rue Montfort à Jonquière. Les sapeurs ont rapidement circonscrit les flammes. Le conseiller municipal du secteur, Michel Tifo, s'est aussi rendu sur les lieux. S'est entretenu avec des témoins sur place. Il nous livre ici son compte-rendu.
Rendu sur place. Évidemment, il y avait policiers, pompiers. Et j'ai pas mal des citoyens qui étaient sur le gazon, parce qu'il y a un grand gazon. Il y a des gens qui m'ont dit, « Pense qu'on a vu quelqu'un sortir en panique. » Moi, j'ai dit à ces gens-là, « Vous avez identifié cette personne-là, policier. » Et puis, j'ai parlé avec d'autres citoyens. Ils m'ont dit qu'ils ont vu comme une espèce d'explosion à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que je pense que, finalement, c'est pas un incendie criminel.
Comme Dominique vous le disait, voilà, ben Dominique vous mentionnait qu'il y avait eu un autre retour des policiers hier parce que le feu aurait repris. En tout cas, on va vérifier ce détail-là. Il y a des témoins qui ont raconté avoir vu samedi soir quelqu'un sortir de l'église en criant avec un français cassé, un accent. Il y a le feu, et finalement, ben, l'enquête se poursuit. L'expert, d'ailleurs, qui a été mandaté par la police, arrive aujourd'hui pour examiner les lieux. Le boulevard Martel a été le théâtre d'une autre collision hier, entre une voiture et un orignal. C'est arrivé en début de soirée vers 19h. La collision est survenue tout près de l'intersection du chemin des Ruisseaux. Les équipes d'urgence ont rapidement convergé vers les lieux. Fort heureusement, la conductrice de la voiture s'en est bien tirée, ne subissant que des blessures mineures à une main. L'orignal est décédé sous la force de l'impact. Dans les autres nouvelles, il y a 5 ans aujourd'hui, le Québec élisait le Bloc québécois avec 32 députés. C'est arrivé le 21 octobre 2019. Donc, les Québécois qui choisissaient Yves-François Blanchet et son équipe dans 32 circonscriptions. 5 ans plus tard, la formation politique est représentée par 33 députés. Et à quelques jours du 29 octobre, échéance donnée au gouvernement Trudeau pour mettre en œuvre